Dinamilo, guten Tag, good morning, bonjour, shalom, assalam alaikum. Avec cette émotion que vous percevez certainement, j'ai le bonheur de retrouver le studio du Club de la Presse en exprimant ma gratitude à Dieu, également ma reconnaissance à Fousseni Saïbou et Pascal Lossou, à tous les confrères et toutes les personnes ressources, et vous également, les co-animateurs du Club de la Presse pendant le temps où la voix de SAS ne se faisait pas entendre, mais que le Club de la Presse s'animait au jour le jour. Le lundi 7 août 2023, ils sont 11h, passé légèrement de quelques instants, et nous vous saluons, vous qui êtes en place sur Canal FM, la nouvelle génération, mais également sur les ondes des médias partenaires. J'ai nommé Radio Courtoisie depuis Dapaon, Radio Sama FM avec l'espoir qu'ils auront réussi à relever leur pylône, c'est à Bagan-Niamtougou, Radio Daoul en Pays Bassar qui se prépare à la fête de Pontre-Nidak en Pays Bassar Konkomba. Nous n'oublions pas nos amis de Radio Centrale FM à Sokodé au centre du Togo. Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, la ville des sept collines. Ils ont célébré la fête Ndonchou, mais ils ont un peu oublié le Club de la Presse, mais ils vont se rattraper. Et nous finissons avec Radio Lumière à Anéro. Et nous n'oublions pas ceux qui nous perçoivent dans le monde entier par le biais de la technologie. Technologie pilotée de main de maître par Victor Gwekoku, Michel Tomega et Jérôme Dakoucha. Le Club de la Presse qui démarre toujours avec une pensée du jour. Et aujourd'hui, nous choisissons de rappeler cette phrase qui dit que chacun de nous est porteur de points de vue, mais pas d'une vérité absolue. Encore une fois, c'est le sage qui nous rappelle que chacun de nous, ou chacune de nous, ça dépend, est seulement porteur ou porteuse de points de vue, mais pas d'une vérité absolue. Au Club de la Presse aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un qui est dans la dynamique de son jubilé de porcelaine, Pascal Edo Agbové, bonjour.
Bonjour, Frère Sos.
Comment tu vas?
Je vais bien, par la grâce.
Il y a une vingtaine d'années, tu lançais une idée comme ça, comme une blague, initiative des jeunes pour le développement, et ça fait déjà 20 ans.
Effectivement, l'idée a aujourd'hui 20 ans. Et nous remercions Dieu de nous avoir accompagnés durant toute cette période.
Je crois savoir que IJD pour toi, c'est une question de foi.
Absolument. C'est un ministère, c'est une vision que nous avons. Et je crois que le Seigneur nous a aidés à évoluer. Et il y a encore des défis à relever, mais nous sommes certains qu'avec la foi, nous irons de l'avant.
Merci. Donc, tu nous diras quelles sont les idées forces de cette ONG IJD. En 20 ans, tu vas nous esquisser un bref bilan, mais ce qui est le plus important, comment IJD se projette-t-elle pour les décennies à venir, n'est-ce pas, Pascal?
Absolument.
Merci. L'actualité chez nous ici, au Togo, en Afrique, c'est ce qui s'apparente à des tiraillements, voire même à des craquements au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Depuis le Togo ici, nous allons analyser la situation à la lumière des articles de journaux, mais également par vos commentaires. Jacques Diakouti, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Il y a également Uriel Kakpala Enyang de Mega Info, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement.
Et aujourd'hui également, c'est la journée mondiale de l'éducation, à ne pas confondre avec la journée internationale de l'éducation, c'était le 24 janvier, mais nous allons parler de l'éducation, la problématique au plan mondial, et puis nous sommes en vacances scolaires. Mais certains journaux reviennent un peu sur la griffe, Cocoroco, sur le monde de l'éducation, les défis qui restent à relever et surtout comment nous devons déjà commencer par préparer la rentrée scolaire 2023-2024. Mais avant d'aborder ce sujet, je rappelle que nous attendons un quatrième confrère avec l'espoir qu'il va nous rejoindre. Mais souffrez que nous ouvrions ce carnet noir par gratitude et en reconnaissance à certaines personnes qui nous ont quittés ces derniers temps. Le premier, c'est mon cher proviseur Soji Sanvi Anoumou Francis. Il a été mon proviseur lorsque j'étais au lycée du Thévier. Il est décédé le 8 juillet. Il a été inhumé le 4 août dernier. Nous lui souhaitons paix éternelle. Soji Sanvi Anoumou Francis, qui a été professeur de lettres, écrivain, ancien proviseur de Thévier et bien d'autres, mais il a été également maire de la ville d'Anéro. Encore une fois, qu'il repose éternellement dans la paix. Et puis le deuxième personnage, Jacques Djakouti, j'ai pas pu m'empêcher de t'appeler au secours le samedi matin quand un ami m'a appris que le commissaire divisionnaire Atabou Dignifa Kossi venait de décéder brutalement au matin du samedi 5 août. Lui, que les gens avaient vu au bureau tard la veille, le vendredi, le commissaire divisionnaire Atabou, qui jusqu'à sa mort était le préfet du Golfe, et un moment également ancien commissaire central de la ville de Lomé. C'est ce personnage si gentil qui nous a subitement quittés le matin du 5 août, Jacques.
Vous avez très bien fait de mentionner qu'il était vraiment très, très, très gentil. Moi, je l'ai connu dans des circonstances un peu difficiles, parce que c'était pas l'entremise du ministre de la Sécurité, le général Yark, que j'avais contacté une nuit vers 1h du matin, qui m'a mis en contact avec lui quand il était commissaire, comme vous l'avez si bien dit. Voilà un monsieur qui s'est transporté sur les lieux, ça je vous affirme, c'est-à-dire que c'est pas qu'il a envoyé quelqu'un, lui-même il était venu, et finalement la situation a été réglée. C'est vous qui m'avez balancé l'information, j'étais vraiment touché par rapport au décès de ce commissaire. Je voudrais sincèrement présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de notre ami commissaire Atabou, que beaucoup connaissent vraiment pour sa gentillesse. Vraiment que la terre lui soit légère, et présente les condoléances les plus attristées à son corps, c'est-à-dire la police, et présente également les condoléances les plus attristées à sa famille.
Merci. J'avoue que j'avais du mal à l'appeler monsieur le préfet. Je préférais plutôt l'appeler monsieur le commissaire divisionnaire, et il en paraissait également fier. Ce sacerdoce qu'il a exercé ici au Togo, qu'il a conduit jusqu'en Haïti, il a fait partie d'une mission pour aider un peu à la paix en Haïti. Il s'en est allé, mais Uriel, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, à son épouse, à ses enfants, au corps de la police, dirigé actuellement par Et Paul, il est colonel ou bien c'est plus trop à la direction nationale de la police.
Il est colonel.
Il est colonel. Et au-delà également au ministère, au ministre de la Sécurité, ils viennent de perdre un vaillant élément. Et comme pour ne pas finir, il y a également Méga Info qui partage avec nous le décès du magistrat Aimé Karenkou Aoulmé Nayo. Il était conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême du Togo. Il s'en est allé et il sera également inhumé courant ce mois d'août. Uriel.
Vraiment, toutes nos condoléances à toutes ces familles qui ont été touchées ces derniers temps par ces décès brutaux. On ne saurait trop le dire. Vous savez, moi, ça m'a vraiment étonné lorsque j'ai lu sur les réseaux sociaux le décès du préfet du Golfe. Et je me suis posé la question parce que ça m'a rappelé immédiatement le décès de l'ancien président de la HAC, qui était décédé aussi un samedi matin comme ça. Et puis je me suis dit, mais tout à fait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsqu'on vous annonce un décès, et vous n'avez pas appris la maladie de la personne et subitement on vous dit que la personne est décédée. Les gens ont dit qu'ils ont échangé avec lui la veille. Mm-hmm. Et jusqu'à la soirée, ils continuaient par échanger. Le monsieur ne souffrait de rien. Donc, toutes nos condoléances à toutes ces familles, au magistrat Nayo.
Il faut bien traduire. Le monsieur ne paraissait ne souffrir de rien parce que nous traînons tellement de maladies essayons de gérer.
Tout à fait. C'est bien corrigé. Et ainsi, feu magistrat Nayo, qui sera inhumé le 26 août prochain dans la Kéran, à toutes ces familles, il y a aussi un juge de la Cour des comptes qui vient de décéder aussi aux parents de tous ces défunts. Nous présentons nos sincères condoléances et nous prions l'Éternel de veiller sur nous tous.
Merci, je l'annonçais, il nous a rejoint. Lui, c'est Harry Niaou Tchanyaou, bonjour.
Bonjour Sass, bonne reprise à toi. Merci. Et bonne semaine de travail à toutes et à tous les Togolais.
Merci. Eh bien.
Sass, si tu le permets, oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux personnalités que nous avons, nous perdons un peu. C'est vrai, vous savez, les gens n'ont pas souvent le temps de faire un petit bilan. Il faut tout
bilan
faire.
De santé, tu
bilan,
veux dire.
Oui, il faut faire le bilan de santé. Ça, c'est important. Et l'autre aspect, vous savez, certains ont des maladies qui ne veulent pas souvent déclarer même à leurs épouses. C'est-à-dire qu'ils ont un mal qu'ils traînent. Même la femme qui vit avec lui à la maison, il n'aime pas parler de ça. Mais il faut le faire parce que, vous savez, en Afrique, on se communique. C'est-à-dire que peut-être Uriel connaît quelqu'un qui souffrait de telle maladie, il a vu tel, on l'a prescrit ceci, et ça peut-être que ça l'a guéri. Donc je crois qu'il ne faudrait pas qu'on cache les maladies. Et l'autre aspect également, pour les personnalités, vous allez voir que la plupart n'ont pas le temps. Tout le temps, ils sont toujours en bureau, ils sont en voyage. Prendre soin de leur corps, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc je crois que pauvres que nous sommes, nous autres, il est important qu'on le fasse également, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année, qu'on puisse faire le bilan de santé pour savoir de quoi nous souffrons. Parce qu'un matin comme ça, on dit que la personne est morte peut-être de la tension. Peut-être que la personne ne savait même pas qu'elle est tensionnaire. Moi, je crois que c'est des choses de temps en temps quand même qu'il faut faire. Essayez de s'examiner, aller à l'hôpital, même si ça coûte cher, c'est votre santé. Vous voyez, donc je crois qu'il faut que nous puissions avoir cette habitude-là. C'est vrai que je parle sous le couvert du président du CONAP parce qu'il faut essayer de voir. Avec nos confrères journalistes, on avait parlé du LINAM pour voir comment aider.
L'Institut national d'assurance.
Voilà, pour aider également nos confrères de temps en temps à avoir cette carte-là et vraiment se soigner. C'est important.
Merci pour ce rappel. Bilan de santé, quand on a 40 ans, quand on a 60 ans, en allant, c'est bien d'avoir des responsabilités. Mais il faut trouver un peu du temps également d'aller se faire regarder par le médecin. Si on nous dit que tout va pour le mieux, tant mieux. Mais s'il y a une alerte, parce qu'à les deux à Agbové, on attirerait notre attention là-dessus.
C'est le courage.
Absolument.
C'est le temps ou c'est le courage?
Exactement.
Je crois mais Doriel dit qu'il faut avoir un certain courage pour faire
le bilan de santé. Ce que vient de dire notre frère Jacques est réel. Nous-mêmes, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais... Et nous prenons quand même soin d'aller faire la révision à nos engins. Mais le corps même qui nous aide à faire le travail, parfois on l'oublie. Et donc c'est un rappel très important.
Merci. Alors nous continuons avec l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement qui souffle 20 bougies encore une fois. Bon jubilé de porcelaine, Pascal.
Merci Frère Sass, merci à nos chers auditeurs, auditrices. Et alors
Veux-tu nous rappeler comment l'idée t'est venue à toi et à tes amis de mettre sur les fonds baptismaux l'IJD et quelles sont les idées forces qui vous meuvent durant toutes ces années?
D'accord, merci. Vous savez, l'IJD a été créé le 20 février 2000. Alors, moi j'étais déjà en fonction puisque j'ai commencé à travailler le 11 novembre 1998.
En fonction où?
Je travaillais déjà.
Et donc, tu faisais quoi?
J'étais chef contrôle de gestion dans une institution financière. Alors, donc, mes collègues étudiants qui ne travaillaient pas encore venaient chez moi chaque soir et puis on échangeait. Donc, comme ils ne travaillaient pas, un soir, ils étaient venus encore chez moi et dans ma chambre, on négociait. Et puis, je leur ai dit, mes chers amis, si l'État ne veut pas nous trouver du travail, alors nous avons quand même des connaissances. Nous pouvons vraiment contribuer au développement du pays à travers nos propres initiatives. D'où l'idée... de créer une association. Donc, comme vous voyez bien, l'initiative des jeunes pour le développement, nous écrivons toujours initiative au pluriel. Donc, en réalité, nous avons dit, nous allons entreprendre des initiatives pour contribuer au développement de notre pays. Donc, c'est ça, IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Donc, IJD a été créé en 2000, mais on n'avait pas les moyens. Parce que la vision qu'on avait donnée à l'organisation, c'est de voir les jeunes devenir des acteurs responsables de leur propre itinéraire d'insertion sociale et économique. Donc, il était question de mobiliser, motiver et puis armer intellectuellement les jeunes à travers des formations. Donc, il a fallu mettre en place des infrastructures pour démarrer nos activités. Donc, de 2000 à 2003, on n'avait plus tout le temps de chercher des moyens pour pouvoir mettre en place nos infrastructures. Donc, comme vous voyez bien, là où se trouve notre siège aujourd'hui, c'est là où on a commencé nos activités. Donc, nous faisons 20 ans dans notre bâtiment. Et donc, il a fallu mobiliser des ressources pour mettre en place des infrastructures, avoir des ordinateurs, avoir des salles de cours, puisque nous avons pensé mettre en place un cadre de formation des jeunes qui devait être une structure de développement de compétences, ce qu'on ne nous donnait pas à l'université. Donc, on a démarré nos activités le 23 juillet 2003. Et déjà, après 2-3 mois, on a formé plus de 100 jeunes en informatique. Et donc, d'où l'idée d'étendre nos formations vers d'autres spécialités. Donc, déjà, à partir de septembre, on avait initié 6 filières de formation professionnelle. Des formations qu'on ne pouvait pas avoir à l'université à l'époque. Et donc, qui devaient permettre aux jeunes d'avoir des qualifications pointues à part les cours qu'on recevait à l'université. Donc voilà un peu, donc notre engagement c'était ça, de faire en sorte que les jeunes puissent avoir quand même une qualification précise pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail.
Ils sont formés dans quel domaine précisément ?
On formait dans les domaines, au début c'était l'informatique, après tout on était dans le domaine de l'administration, mais comme je le dis, les mêmes formations qu'on recevait à l'université de la gestion, le transit à l'époque, on avait fait le transit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont devenus des grands transitaires. Alors, on est vraiment aussi dans le domaine de maintenance informatique. Domaine informatique qui n'était pas tellement développé, développement d'applications. Donc, on avait initié les jeunes dans ce domaine. Donc, je crois que ça a pris et les jeunes s'intéressaient vraiment à ce qu'on faisait. On avait étendu encore nos formations. Aujourd'hui, on a mis plus d'une vingtaine de spécialités. Donc, c'est comme ça qu'on a évolué. Et après tout, on a étendu nos actions vers d'autres domaines aussi. En 2004 déjà, on était sollicité sur le Fonds mondial de lutte contre le VIH-SIDA. Donc, IJD avait participé à la lutte contre le VIH-SIDA à travers plusieurs activités de prévention dans la région maritime. Et après tout, nous avons aussi intégré le volet droits de l'enfant. À l'époque, on avait travaillé avec des organisations défendant les droits de l'enfant, jusqu'à créer plus tard le FODET aujourd'hui, Forum des organisations défendant les droits de l'enfant. On a évolué, après tout, nous avons initié une plateforme nationale des jeunes, qu'on appelle aujourd'hui le Conseil national de la jeunesse. Vous savez que IJD est une structure, fait partie des structures qui ont initié le Conseil national de la jeunesse. Même les statuts, tous les tests du CNJ ont été élaborés sur nos machines. Et donc, c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce que le gouvernement n'accepte le principe. Et le ministère nous avait accompagnés pour...
Le ministère de la jeunesse.
De la jeunesse, à l'époque. C'était le secrétaire d'État chargé de la promotion de la jeunesse qui nous avait accompagnés jusqu'à ce qu'on mette en place le Conseil national de la jeunesse. Et donc... C'est comme ça que nous avons travaillé, nous avons fait le plaidoyer jusqu'à ce que l'État ne mette en place d'autres structures comme FAEJ, aujourd'hui que vous voyez le Fonds d'appui à l'initiative économique des jeunes. C'est le résultat de nos plaidoyers. Donc, IJD était au front. On travaillait et des partenaires nous avaient fait confiance. Le PNUD, à l'époque, nous avait appuyé aussi en lançant un programme qu'on appelait Programme de promotion de l'emploi des jeunes. Et donc, on avait évolué jusqu'à élaborer un programme d'intégration, d'enseignement de l'entreprise dans le système éducatif. Et donc, on avait travaillé avec le ministère de l'Enseignement technique où on a conçu même des manuels, on a formé les enseignants. Mais on a vu que vraiment, il y avait quelques difficultés. Nous avons quand même évolué jusqu'à ce qu'on intègre le volet éducation citoyenne en 2000 dans nos programmes. Et on avait organisé l'école citoyenne qui est un forum citoyen d'éducation citoyenne des jeunes. Et on a évolué comme ça jusqu'à... Bon, on avait intégré l'entrepreneur de manière systématique sur le programme de PNUD. Et donc, on a évolué et jusqu'en 2017 où on avait intégré encore le volet... décentralisation et développement local sur lequel on avait vraiment travaillé jusqu'à l'organisation des élections en 2019
et nous travaillons également sur cette thématique. Donc voilà, de manière sommaire, ce que nous avons, comment nous avons évolué, et aujourd'hui les résultats sont là en chiffres.
Alors en justement, 20 ans, j'ai consulté vos narratifs avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, le nombre de jeunes formés, les filières dans lesquelles vous les avez formés, et surtout que certains, ou bien nombre de ces jeunes formés, trouvent à faire aujourd'hui.
Absolument. Aujourd'hui, la satisfaction que nous avons, les jeunes qui sont formés chez nous, aujourd'hui, des jeunes ont 2-3 maisons, ils ont 2-3-4 voitures, ils travaillent dans des institutions étatiques, dans des instituts privés, et c'est une fierté. Arriver à former 8276 jeunes, ce n'est pas chose facile. Ce n'était pas facile pour nous. 2876 jeunes, hein, avec 51% des filles, 4223 jeunes filles qui ont été formées, parce que la fille, le genre considère une priorité pour nous. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons pu former 27213 jeunes en technique de création d'entreprise. On a assisté 2114 jeunes à élaborer leur plan d'affaires. Nous avons pu accompagner les micro-entrepreneurs, 822 micro-entrepreneurs, à se faire formaliser et puis à développer leur entreprise. Donc, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
Des chiffres des chiffres dont vous souhaitez qu'ils parlent encore mieux. Alors, 20 ans, c'est bien, mais dans les 20 ans, 30 ans, 50 ans à venir, quelle IJD rêvez-vous?
IJD forte. Qui répond mieux aux besoins des jeunes aux côtés des pouvoirs publics. Parce que nous avons estimé que nous sommes une microstructure et nous ne pouvons pas répondre à toute la demande sociale des jeunes. Donc, nous allons travailler de concert avec les pouvoirs publics, que ce soit les structures étatiques, que ce soit les collectivités territoriales, pour vraiment mettre en place des programmes innovants afin de mieux répondre aux besoins des jeunes. C'est pour des raisons que nous avons défini une nouvelle approche de travail qui nous permettra d'être présents dans toutes les communes pour pouvoir travailler de concert avec les communes. Donc, il y aura une session de JD sur l'ensemble du territoire avec une responsabilisation des jeunes. Donc, nous voulons que les jeunes s'inspirent de ce que nous avons déjà fait pour qu'ils soient autonomes sur leur territoire. Et nous allons leur apporter juste l'expertise. Donc, aujourd'hui, IJD envisage de travailler sous forme d'un réseau. Donc, nous n'allons plus faire tout pour les jeunes. Moi, je me souviens en 2005. Quand nous avons eu la chance de rencontrer le chef de l'État dès son avènement au pouvoir, nous avons quand même expliqué au président que les jeunes, on a toujours fait pour les jeunes, mais il est temps qu'on fasse tout avec les jeunes. Donc aujourd'hui, nous allons faire le plaidoyer de manière à ce que les actions des pouvoirs publics soient menées de concert avec les jeunes. Il faut mettre les jeunes au centre. Mais les jeunes ne peuvent pas répondre à certaines responsabilités, ne peuvent pas répondre s'ils ne sont pas bien formés. Donc, IJD va continuer sa formation, mais cette fois-ci vers le renforcement des capacités en matière de pilotage des projets, en matière de leadership, pour que les jeunes même se sentent responsables. Parce que nous aussi, nous vieillissons, nous n'allons pas toujours continuer pas faire pour les jeunes, mais il va falloir que nous puissions transférer les compétences aux jeunes afin qu'ils puissent se prendre en charge. L'autre volet important qui est intégré, que nous allons sur lequel nous avons travaillé, c'est la promotion de l'entrepreneuriat dans le système éducatif. Déjà, en décembre 2020, on a signé une convention de partenariat avec le ministre Cocoroco pour aider le gouvernement à intégrer l'entrepreneuriat dans le système éducatif de manière systématique, en commençant par le niveau secondaire avant d'aller au niveau primaire. Mais après 3 ans, nous ne sommes pas encore sur le terrain parce que nous manquons de ressources pour ça. Alors qu'avec les partenaires, nous avons déjà conçu des manuels, des bouquins, nous avons déjà proposé des outils qui devant aider le gouvernement à régler ce problème d'entrepreneuriat dans le système éducatif. L'autre volet également sur lequel nous allons travailler, c'est la promotion, c'est l'accompagnement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. L'entrepreneuriat agricole. Nous allons plus travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole et associé au volet climat. OK? Donc l'environnement va intervenir dans nos volets prochainement. Donc voilà un peu les nouveautés.
Merci
et donc
merci à Dieu pour continuer à rêver grand. Quelque part, on peut dire que vous avez une oreille attentive au sommet de l'État parce que le gouvernement a créé un ministère dédié à la jeunesse, à l'emploi des jeunes, avec des instances comme le FAIEJ, la NGPF et bien d'autres, et également une mesure présidentielle. Qui tend à attribuer 20 à 25% des marchés publics aux entreprises créées par les jeunes et les femmes, avec l'espoir qu'on va évaluer tout ça, en tirer des enseignements judicieux pour le meilleur être de nous être, de nous tous. Merci donc, Pascal et de Agbouvé. 20 ans, c'est beau, c'est beaucoup, mais beaucoup plus de choses que IJD va vous présenter dans les années à venir.
Absolument. Ce que nous, je voudrais quand même profiter pour vraiment lancer cet appel. Ce que nous avons toujours remarqué au niveau des pouvoirs publics, vous savez, nous travaillons sur les questions de jeunesse. Nous ne sommes pas la seule structure. Il y a d'autres structures également. Et quand l'État veut régler les problèmes des jeunes, ce que nous constatons, au lieu que l'État associe les acteurs qui sont déjà sur le terrain, qui ont une certaine expérience, l'État préfère plutôt créer ses propres structures qui n'ont pas souvent l'expertise nécessaire. Et donc, on gaspille des ressources. Et donc, si nous voulons répondre aux enjeux nationaux, il est important que dans la démarche de l'État, l'État puisse associer les autres acteurs. Vous savez, quand il faut régler un problème national, ce n'est pas seulement les structures publiques. Il faudrait que la société civile, le secteur privé accompagne l'État. Donc, sur une thématique importante d'intérêt national, il va falloir que l'État associe les structures. Donc, nous aurons souhaité que dans les prochaines années, à partir de maintenant plutôt, l'État puisse vraiment associer les acteurs. Aujourd'hui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'accompagnement des collectivités territoriales, dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat, l'État a besoin de la contribution des autres acteurs. Et c'est très important pour nous que l'État puisse vraiment offrir cette facilité de collaboration.
Ne sera pas tombé dans des oreilles dessous, parce qu'il faut toujours espérer qu'au sommet de l'État, on écoute ce qui émane de nous ici, le peuple réel, pour parler ainsi. Nous enchaînons donc avec...
Ça, je voulais quand même
Jacques Diakouti
le féliciter, parce que tout au début de IJD, j'ai vu comment il a commencé. Je crois que nous étions les tout premiers au niveau des médias au Togo à l'accompagner. Tout au début, c'est un jeune qui s'est beaucoup battu. Je suis très fier.
Et qui continue à se
battre. Ouais, je suis fier de le voir aujourd'hui là où il est. Il faudrait, comme il a lancé l'appel, que l'État vraiment puisse l'aider. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est une œuvre utile pour nous tous, c'est-à-dire pour l'État et également pour les jeunes. Donc... et que ce qu'il est en train de faire, nous demandons, ne serait-ce que aujourd'hui nous avons un ministère qui est chargé également de la promotion, il y a également un ministère qui est chargé également du secteur privé. Donc, je crois qu'il faut vraiment conjuguer ces efforts-là pour aider effectivement notre jeunesse à le potentiel que cette jeunesse a là, que cette jeunesse puisse effectivement mettre en œuvre ses connaissances. Parce que je suis fier aujourd'hui de voir les jeunes, je ne sais pas si vous avez fait un tour lors de la foire qui a eu lieu au niveau du palais des congrès et l'autre également au niveau de la foire
Made in Togo.
C'est vraiment génial. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut accompagner. Félicitations au ministre du Commerce et également au directeur du CETEF d'avoir organisé ça. Mais je crois que ce qui reste à faire maintenant, parce que sur le terrain, ce que j'ai eu à entendre au niveau de la bouche de ces jeunes-là, c'est que l'État puisse rester toujours garant au niveau effectivement des banques, au niveau effectivement des structures pour qu'ils puissent effectivement faire des prêts et avancer dans leurs entreprises.
Merci. Que l'État fasse confiance à l'expertise locale. Pascal Edo l'a dit, pour résoudre un problème public, on n'a pas nécessairement besoin d'une nouvelle structure publique, mais on peut s'appuyer sur une expertise déjà sur le terrain. C'est un appel qui sera sans doute entendu. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui au plan mondial. C'est la journée mondiale de l'éducation, le 7 août. Mais malheureusement, cette journée du 7 août est peu suivie et est même délaissée. Ailleurs, on lui préfère souvent la journée mondiale des enseignants qui est célébrée le 5 octobre. Et également, ne pas confondre avec la journée internationale de l'éducation qui, elle, est célébrée le 24 janvier. C'est vrai, Arimion Chanyaouko, même aux Nations Unies, il y a tellement de journées internationales, de journées mondiales, de journées africaines, de journées nationales, qu'il n'est pas toujours facile de se retrouver.
Décidément, je disais tout le temps que les journées que nous connaissons, si on doit enseigner les enfants à faire la leçon, à retenir ces journées-là, ma foi, ça va faire des centaines de pages. Le problème chez moi, C'est que tout le temps, je me demande, on institue des journées, journée de la paix, journée de ceci, journée de tel, journée. Est-ce que au fond, les gens prennent en compte tout ce qui se dit par rapport à ces journées? Est-ce que les gens font l'expérience? Est-ce que les gens ont conscience? Ou bien, il s'agit de se réveiller un beau matin, la journée de tel, les ministères de tutelle vont aller lire les discours, les journalistes avec caméra et bic et crayon écrivent, et on dit que nous avons célébré la journée. Moi, je ne crois pas en les célébrations. Je crois aux actes que les gens vont tirer derrière les célébrations de ces journées-là. Vous savez que le monde connaît des journées, journée mondiale de la paix. Mais est-ce que les gens cultivent la paix? Le monde connaît journée internationale de lutte contre tel ou tel. Est-ce que les gens vraiment luttent et prennent conscience? L'idéal, c'est de faire l'effort, d'après les célébrations, qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour changer sérieusement le domaine sur lequel on a jugé bon d'instituer une journée.
Merci. Alors, l'éducation chez nous ici au Togo, il y a deux journaux qui en parlent. Commençons par Togo Matin, qui écrit à la page 3, secteur éducatif, le professeur Kokoroko relève peu à peu les nombreux défis. Le journal écrit, noir sur blanc, que avant son arrivée au ministère, il y avait déjà beaucoup de problèmes et le secteur éducatif était confronté à de nombreux défis. Nombre de ces défis demeurent encore, mais souligne Togo Matin, la différence, c'est qu'il y a un homme qui arrive à trouver les moyens de les relever. Avec tout le débat que cela soulève ici et là. Alors, l'une des mesures que Kokoroko a prise il n'y a pas longtemps, et là c'est Uriel et son journal Méga Info qui nous le relève, qui nous le rappelle, l'arrêté pris par Kokoroko qui est relatif à la tenue scolaire, aussi bien pour les écoles publiques que privées. Et ton journal Méga Info trouve que ce sont là des mesures non négligeables contre le harcèlement sexuel. Uriel.
Voilà un monsieur qui arrive dans un champ miné de tous les problèmes, mais progressivement il arrive quand même à cibler les problèmes majeurs, et avec l'aide de ceux qui l'entourent, il prend des mesures, des dispositions pour quand même qu'à la fin, le jour où il sortira de ce ministère, quand même qu'on puisse retenir qu'il a réglé tel ou tel avant de partir. Au-delà de tout ce que M. Kokoroko a déjà fait, loin de nous ici de faire l'apologie de ce monsieur, puisque des fois, quand il agit de trop aussi, nous le disons, nous trouvons que cet arrêté relatif à la réglementation de la tenue scolaire vient résoudre un angle de problème. L'angle de problème, c'est le harcèlement sexuel. Vous savez, souvent, c'est cette tenue indécente de la gente féminine dans le milieu, en milieu scolaire qui pousse. Certaines personnes ont l'irresponsabilité. Ça, on ne va pas le nier ici, parce que lorsque vous sortez dans la cour, vous voyez des enseignants même qui doivent, des élèves filles qui ont porté des jupes qui n'atteignent même pas leurs genoux, ça frise la convoitise. Aujourd'hui, peut-être que le professeur Kokoroko n'a pas voulu être clair sur sa mesure prise, mais nous savons quand même que la mesure n'est pas à marquer son passage. La mesure vient résoudre beaucoup de problèmes. On a au cours de chaque année scolaire, on a décelé beaucoup de problèmes liés au harcèlement sexuel. Aujourd'hui, cette mesure, si elle venait à être appliquée au cours de l'année scolaire 2023-2024, c'est un début. C'est un début. Et au-delà de ça, beaucoup de choses, j'ose croire, viendront encore, et progressivement le secteur de l'éducation.
L'arrêté est bien clair, comment on doit coudre la tenue scolaire. Les filles, la jupe doit descendre au moins jusqu'au genou. J'ai été enseignant et je me rappelle certaines situations qui ne sont pas toujours agréables. Quand tu es enseignant, que tu vois, tu es en face de certaines situations. Heureusement, il faut être innocent pour se maîtriser, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Mais il ne faut pas faire fixation sur les filles seulement, mais l'arrêté parle également de la tenue des garçons, oui. Parce que ces pantalons qui arrivent au tibia, et ou bien qu'on descend jusqu'au ras des fesses, l'arrêté précise clairement comment on doit coudre ces tenues. Et nouvelle opinion, Harry Miaou, toi aussi, ton journal, il voit une nouvelle réglementation salutaire pour les tenues scolaires.
Oui, non, je crois que Cocoroco, oui, Cocoroco, il est en train de faire sa marche et derrière, il laisse des hauts et des bas et nous en parlons. Mais quand c'est bien, il faut qu'on ait le courage de le dire. Et ça, l'harmonisation au niveau des tenues scolaires, je crois que c'est une très bonne chose que nous tous nous saluons puisque il a été décrié plusieurs fois. Il y a des élèves qui ont été enceintés, des décisions ont été prises, ça et là. Il y a même des tenues qui permettent de voir un élève. Je ne parle pas forcément des jeunes filles, des jeunes garçons. Vous voyez sa tenue, vous savez à quoi il peut ressembler. Un petit drogué, un petit voyou de rue, des tenues qu'on met sur les fesses, des tenues bizarres. Donc, toutes ces choses-là ne peuvent pas rimer avec la vision du gouvernement togolais, la vision de nous les parents. Parce qu'un pays qui veut aller loin, un pays qui veut se développer, doit avoir comme socle la discipline à tout niveau, le respect à tout niveau. Et je crois que c'est cela que Cocoroco est en train de travailler. Et vivement que maintenant, les enseignants, les éducateurs, les chefs d'établissement prennent la chose à bras le corps et que la rigueur sévisse partout pour que nous ayons des citoyens décents, des citoyens dignes de nom, pour que dans les années à venir, les générations que nous allons former dans nos écoles, ce soient des générations responsables, faites d'enfants intelligents, mais aussi avec de responsabilités.
Merci. Pascal et Deux Agbové, nous parlons de l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement pour faire plaisir à un enfant. Nous sommes parents, éducateurs, et nous savons que des fois, il faut mettre un peu d'autorité pour montrer la voie à l'enfant, que ce soit une fille, un garçon. Cet arrêté participe de cette dynamique parce que qui dit école dit des valeurs. C'est ce que Cocoroco vient de fixer par son arrêté. Maintenant, il appartient aux parents de veiller à ce que les tenues de leurs enfants soient conformes à la nouvelle réglementation. Et puis dans les écoles aussi, il faudra un peu de discipline pour rappeler ceux qui rechigneraient à respecter le nouvel arrêté.
Absolument. C'est une décision à féliciter et à soutenir. Donc, il nous appartient maintenant de veiller au respect de cette disposition pour que les jeunes puissent vraiment évoluer normalement dans leurs études.
Merci. Et toi, Jacques?
Non, je crois que, comme vous l'avez si bien dit, vous savez, quand on parle par exemple d'une tenue, ça part d'abord de la maison, parce que c'est la responsabilité des parents. Le ministre Cocoroco vient de donner le ton, mais l'application, c'est au niveau de nous, les parents. Et l'autre aspect qu'il faut également soulever, c'est vrai, quand vous prenez par exemple les couturières, les tailleurs ici à Lomé, moi je me suis dit que bon, pour faire ce genre de tenue, ce n'est pas un problème. Mais quand vous allez vers l'intérieur du pays, est-ce qu'on peut trouver effectivement des tailleurs et puis des couturières pour faire les modèles dont le ministre Cocoroco...
Dans tous les villages, dans tous les quartiers, on peut en trouver couturières et tailleurs.
Non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que, ce que j'ai dit, vous savez, il y a certains parents, la tenue que l'enfant porte toute une année, quand il quitte le CP1 vers le CP2, on essaie peut-être de réduire un peu la taille peut-être du pantalon ou bien de la culotte pour l'enfant.
Augmenter plutôt parce qu'entre-temps, l'enfant a grandi.
Voilà. Donc, je crois que si on me parle, par exemple, de la capitale, ça peut se comprendre parce que les vices, c'est dans les grandes villes. Mais quand vous prenez, par exemple, les villages, les villages ne vivent pas les mêmes vices que les grandes villes. Et l'autre aspect, c'est vrai, on parle des élèves. Mais qu'en est-il également des enseignants? Parce que souvent, vous allez voir de ces élèves, de ces enseignants ou enseignantes, ce qu'elles portent également frise également les jeunes à rimer leurs yeux vers, effectivement, ces femmes ou bien ces filles enseignantes. Donc, je crois que c'est une chose qu'il faut partager entre les enseignants, entre les élèves et entre également les professeurs. Parce que quoi qu'on dise, quand, par exemple, un enfant peut beau porter, par exemple, une tenue, quand l'enfant va à l'école, par exemple, et le professeur, ce qu'il porte, ou bien l'enseignante, ce qu'elle porte, crée également une polémique. Je crois que c'est des choses également à revoir. Mm-hmm. Une chose, c'est bien la décision de ministre Cocoroco. Mais ce qu'il faut ajouter à ça, il faudrait qu'on puisse mettre également, ne serait-ce que des gens pour pouvoir suivre un comité de suivi de cette décision. Parce qu'il faut reconnaître également que ce n'est pas tous les parents qui auront les moyens de pouvoir effectivement aller faire ce genre de tenue-là. Donc non, il faut également...
Ce que Kokoroko dit, c'est de plus simple.
Non, je ne refuse pas. C'est-à-dire que, vous savez, vous êtes dans la capitale. C'est pourquoi vous parlez comme ça. Nous qui venons effectivement des villages, on sait ce qui se passe. Je ne refuse pas. C'est une tenue simple. Mais il faudrait aujourd'hui voir les degrés également de la capacité des uns et des autres pour l'application effectivement de la loi. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de ce genre de tenue, c'est vrai que dans d'autres villages, les gens n'auront pas les moyens pour le faire. Donc il faudrait également que le ministre Kokoroko puisse donner des instructions au niveau effectivement de cette localité-là pour voir ce qu'il faut faire.
Pour les écoles publiques, c'est le kaki. Ouais. A priori, le kaki, c'est le tissu le plus à portée de tout le monde. Les écoles privées ont chacun... chaque école a son tissu,
oui.
Mais vivement que on arrange ça aussi bien pour les enfants des riches que pour les enfants des pauvres, voilà. Que l'éducation passe pour tout le monde. Et puis ce que nous disons, l'autorité des parents, l'autorité des écoles aussi. Nous sommes à Lomé, même à l'intérieur du pays, il y a des écoles. Je ne vais pas citer des noms, mais vous savez, ce sont des écoles qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans d'âge, mais qui ont gardé leur renommée parce que l'autorité veille à ce que les enfants ne se permettent pas tout. Aussi bien des écoles publiques que privées, laïques et confessionnelles. Vivement que tout le monde se mette au pas pour que nous ayons des enfants bien formés. Nous sommes aujourd'hui le 7 août, avec petit retard, nous souhaitons bonne fête nationale à nos parents, à nos amis, à nos voisins de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui 7 août, la fête nationale de la Côte d'Ivoire, et le mois d'août là, c'est un chapelet de fête nationale. C'est nos parents, nos voisins du Bénin qui ont inauguré la fête nationale 1er août. Ils ont été suivis par le Niger, oui. 3 août. Le Burkina Faso, c'était le samedi 5 août. Le Burkina Faso qui avait accédé à l'indépendance sous l'appellation de la Haute Volta, ce que beaucoup de jeunes ne savent plus aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, 7 août. Or, toutes ces fêtes nationales se célèbrent dans un climat, le moins que je puisse dire, c'est morose. Ailleurs même, on parlerait du tiraillement. D'aucuns même craignent des craquements au sein de la CEDEAO à propos de la situation qui prévaut au Niger depuis l'irruption des militaires sur la scène politique le 26 juillet quand ils ont déposé le président Mohamed Bazoum. Revue de presse avec Togo Matin qui écrit « Intervention militaire au Niger, désavouée par son Sénat, par le Tchad, l'Algérie et bien d'autres, le président Bola Tinubu enfonce encore la CEDEAO. » Autre journal, c'est le détective qui écrit à la page 7, détective qui écrit « Coup d'État au Niger, intervention militaire, la CEDEAO, la grande honte. » Et Uriel Aignan, ton journal Méga Info écrit « Evala 2023 au Niger, annulé à tout prix le duel entre la CEDEAO et Niamey. »
Vous savez, la prise de position, nous, on l'évite à tout prix. On l'évite à tout prix parce que c'est une situation qui concerne aujourd'hui tout le monde. Vous savez, un président a été démocratiquement élu. Et lorsque la situation a commencé, j'étais vraiment à l'écoute de tous les confrères. J'ai suivi ici la semaine dernière. J'ai dit, mais tiens, si on avance comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, quelqu'un a été démocratiquement élu. Il est en train d'exercer de plein droit son pouvoir. Et un matin, un autre sort, il dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas président de la République. Allez-y vous asseoir là. Je prends les commandes de l'État, du pays. Vous savez, quand ça fonctionne comme ça, c'est un risque. Lorsque les gens applaudissent, passer par ce coup d'État pour dire, bon, abat tel pays, abat telle puissance, non, ce n'est pas juste, ce n'est pas légal, ce n'est pas réfléchi à la lointaine, ce n'est pas bien. Moi, je pense que si, effectivement, le président qui était en exercice a des défauts, qui n'arrivait pas à assumer ses responsabilités, que ce soit mentalement, professionnellement, je pense qu'il y a des procédures de destitution. Il nous arrive des fois d'applaudir ce qui n'est pas à applaudir. C'est un coup d'État. Lui n'avait pas fait coup d'État pour arriver là-bas. Aujourd'hui, la CEDEAO, la communauté sous-régionale dont fait partie le Niger, prend des sanctions et au-delà des sanctions que nous avons énumérées, donne l'ultimatum à ce pays de remettre le président démocratiquement élu dans ses fonctions. Sinon, elle va faire usage de la force. Moi, je ne vois pas de soucis. Je ne vois pas de soucis parce que quand ça se passe comme ça, nous qui sommes en train d'applaudir ici, ça peut nous arriver. Et quand un coup d'État intervient dans un pays, attendez-vous à des années pour que le pays là retrouve la stabilité. Aujourd'hui, nous disons que cette lutte est valable qui s'annonce et qui doit opposer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et Niamey. Je pense que ce n'est pas une lutte à souhaiter. Il faudrait vraiment que la junte, comment il s'appelle, le général Tiani, réfléchissent mille fois. Ce n'est pas encore tard parce que là, ils peuvent revenir à la normale. Ils réfléchissent parce que si la CEDEAO intervient au Niger, tel que les gens le disent, bon, le Niger sera soutenu par le Burkina Faso, le Mali, mais les autres, ils n'ont pas encore fini leur problème. Par où ils vont passer? Dans la zone des trois frontières où, durant une dizaine d'années, merci. Les terroristes les empêchent à atterrir. Mais c'est très compliqué.
C'est
il va falloir que chacun mette bas la tête.
En même temps que nous voulons opter pour la démocratie, qu'aussi bien au sein de la CEDEAO qu'à l'Union africaine et au plan mondial, nous partons sur des principes de condamner toute irruption des militaires sur la scène politique et nous faisons tout pour que les gens n'accèdent au pouvoir que par les urnes. C'est une réalité aujourd'hui qu'en Afrique de l'Ouest, les grands héros du moment, c'est le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, le colonel Assimi Goïta du Mali, le colonel Doumbia de la Guinée. Le rang vient d'être allongé avec le général Tiani du Niger. Du Niger. Alors, Pascal Edouard Bové, comment en est-on arrivé là? Que les mêmes qui optent pour la démocratie soient les mêmes qui applaudissent les irruptions des militaires sur la scène politique.
D'accord. Par principe, les coups d'État sont à condamner. Ok. Maintenant, ceci arrive à cause de la faiblesse de notre système de gouvernance. Parce que on constate que les gouvernants n'arrivent pas à répondre à la demande sociale. Et cette montée de la jeunesse fait peur. Donc, si nous suivons bien le développement qui est fait jusqu'ici, le problème en soi n'est pas un problème de personne. En réalité, les putschistes ne sont pas contre le président Bazoum.
Ils ne l'ont pas tué.
Ils ne sont même pas contre lui. C'est comme quelque chose arrive au Niger et les militaires estiment que le président n'a pas la capacité de pouvoir affronter cela. Donc on se dit, ben écoutez, ça là, ça va détruire notre pays. Si tu ne peux pas prendre tes responsabilités, mets-toi de côté.
Alors justement, les militaires reprochent à Bazoum la dégradation continue de l'insécurité, notamment les terroristes, et il le reproche également de ne pas trouver les solutions idoines.
C'est ça. C'est ce que je disais, qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a un problème au Niger et les militaires estiment que le président ne prend pas des mesures idoines pour faire face à la situation. Donc, en réalité, quand on analyse, c'est comme on se dit, président, on veut t'aider, mets-toi de côté, nous allons prendre la relève, nous allons gérer la situation. Mais comme ce n'est pas on estime que ce n'est pas prévu par les thèses comme ça, mais c'est un enjeu national. Et quand on suit les jeunes aujourd'hui, si le Bazoum avait vraiment le soutien de la population, pourquoi depuis son arrestation ou bien depuis l'avènement des putschistes, ces militants ne sont pas soulevés pour vraiment manifester pour réclamer son retour. Donc il y a un problème de fond. Je crois que ce qui arrive au Niger aujourd'hui peut arriver dans plusieurs pays africains. Et je crois que le cas du Mali est là, le cas du Burkina également. Donc,
de la Guinée.
Nous faisons face à une situation sécuritaire. Et on se rend compte que dans certains pays, les présidents civils n'arrivent pas à faire face à la situation. C'est ce qu'on constate. Sinon, ce n'est pas que les gens, nous devons soutenir les coups d'État. Mais ce que nous déplorons en réalité dans tout ça là aussi, c'est que quand il y a une crise dans un pays, la CEDEAO devait faire preuve de sagesse. Ok, c'est la décision de la CEDEAO aussi qui n'est pas vraiment de nature à faciliter le retour normal de la situation en écoutant aussi les Nigériens. Je ne sais même pas si aujourd'hui la CEDEAO s'en va là-bas pour rétablir Bazoum. Bazoum sera toujours aura toujours le soutien de son peuple. Il y a un problème parce que quand nous suivons la mobilisation au Niger, c'est comme la population est derrière les putschistes. Cela voudra dire que les Nigériens sont solidaires dans cette aventure. Donc, je crois que nos dirigeants devraient quand même mesurer la situation pour prendre des mesures idoines devant ramener la paix au Niger. Mm-hmm. Voilà.
Alors, Ali Miaou, le coup d'État est intervenu le 26 juillet. La CEDEAO a laissé une dizaine de jours aux putschistes de rétablir l'ordre constitutionnel, mais le délai a expiré depuis hier dimanche, et tout porte à croire que si la CEDEAO veut tenir sa parole, elle sera obligée d'intervenir militairement, alors que d'après des indiscrétions, c'est pas le même langage au sein des chefs d'État de la CEDEAO.
Non, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on soit un peu naïf nous-mêmes. Prenons simplement la réalité d'en face. Vous avez parlé du coup d'État en Guinée, on sait comment le coup d'État est arrivé. Il y a un vieux qui est en train de finir son mandat, qui dit, je vais m'organiser pour rester là, on lui a fait coup d'État. Là, c'est isolé. Quand vous allez au Mali, le Mali fait face à une situation sécuritaire depuis plus de 15 ans. La CEDEAO est là. Elle n'a rien fait collégialement. On envoie des gens tout le temps. Nous avons d'ailleurs perdu nos concitoyens sur le champ de bataille au Mali. Ça avait commencé par le Mali. La CEDEAO a été observatrice. Elle a regardé.
Passive.
Elle n'a rien fait. Alors, ça s'est évolué vers le Burkina. Le Burkina aussi dit, nous sommes en face d'une situation sécuritaire qui nous dépasse. La CEDEAO ne s'est pas organisée pour aller aider ce gouvernement-là à frapper l'ennemi commun. Elle s'est tue. Et les gens font des coups d'État en les motivant pour le fait que nous sommes, ceux qui sont là, ne nous rassurent pas. Et c'est l'armée qui fait le coup. Parce que c'est l'armée qui va au front. Les terroristes ont évolué. Ils sont aux portes ici. Mais vous voyez que c'est l'armée togolaise qui se bat et le chef de l'État n'a pas désarmé lui-même. Il encourage et l'armée et tout le monde. Il dit, il les galvanise, il les encourage. La population également prie que nous puissions. Et jusque-là, la CEDEAO, elle a observé même le Nigeria, qui fait face à Boko Haram, qui n'a pas pu mater Boko Haram. Donc moi je me disais que si telle est que la CEDEAO, c'est les motivations des coups d'État, elle se serait organisée pour aller à la guerre contre ceux qui traumatise les militaires et ils viennent dire qu'ils font coup. Maintenant, Eyadema a souvent l'habitude de dire, la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais comment elle finit. Nous avons le cas de la Russie et de l'Ukraine. Nous avons déjà fait plus d'un an. Donc moi, je crois qu'au sein des chefs d'État de la CEDEAO, il y a des sages. On ne peut pas, parce qu'on a fait un coup d'État, dire directement qu'on va venir faire la guerre. On a tous les canons possibles pour travailler sur le terrain de la négociation, de la diplomatie. Aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, la question que je me pose, tout le monde doit se poser cette question. Si tout à l'heure, on dit que la CEDEAO est allée mater, c'est face à toute l'armée, parce qu'il y a des garnisons qui ont rallié les putschistes. Si aujourd'hui, toutes les garnisons du Niger, il y en avait qui ont dit non, nous on n'est pas, on peut aller leur donner main forte pour traquer les autres. Si aujourd'hui la CEDEAO affronte le Niger, comme on le dit, et elle arrive à mater l'armée nigérienne, qui d'autre va être derrière Bazoum? Lui-même, comme mon frère vient de le dire, comment est-ce qu'il va gouverner? Si une mouche passe, il va être obligé de dire que ou bien il revienne. Parce que quand on va tuer les militaires, ça va toucher toutes les familles. C'est pour ça que
merci,
je voudrais
qu'on
prenne la piste des chefs d'État sages
oui.
qui ont dit de prôner davantage le dialogue, merci, comme celui du Togo.
Merci. Alors, je rappelle par exemple que c'est à un sommet extraordinaire que la CEDEAO avait pris ses résolutions d'intervenir militairement si les putschistes ne reculent pas. Il ne sait pas comment ça va se faire. Mais Jacques Diakouti, la situation aujourd'hui, à quoi risquons-nous d'assister?
Non, je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour que les négociations continuent. Parce que quoi qu'on dise, vous savez, le président Bazoum est entre les mains de ces putschistes. Supposons que vous entendez que vous avez appris ce que la CEDEAO a dit, que ce sera des tirs ciblés, des attaques ciblées, autant pour moi. C'est ce qu'ils ont dit. Une attaque ciblée veut dire peut-être qu'ils vont aller vers le palais pour libérer Bazoum. Bazoum est entre les mains des mutins.
Mais ils vont passer par où pour aller le libérer?
Non, mais vous savez qu'il y a les forces françaises à Niamey. Il y a
également nous parlons de la CEDEAO.
Non, mais écoutez, ça, laissez cette histoire. Il y a également les forces américaines qui sont stationnées également au Niger. Donc, il ne faut pas négliger également cette piste-là. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas que nos chefs d'État commettent effectivement cette erreur de vouloir effectivement attaquer le Niger. Il y a des pistes de négociation. Il faut le faire. Voilà. Nous avons vu ici le président de la République. Il s'est investi dans l'affaire du Mali. Finalement, nos frères maliens ont été libérés. Si aujourd'hui le président Fort prend également
les 49 militaires
ivoiriens. Je crois que. Et puis l'autre aspect, ça, ce que vous oubliez, je ne sais pas si vous avez fait la lecture de ce qui se passe. La lecture de ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus une CEDEAO des peuples, mais c'est une CEDEAO des chéris. C'est-à-dire que c'est une chérie de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez le président Tinubu est amoureux de Talon. Talon est également amoureux de Tinubu. En fait, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la lecture. C'est une CEDEAO des chéris. Et si on ne sait pas faire, vous allez voir que je ne sais pas si vous allez faire la lecture. Qu'est-ce que le président tchadien vient chercher dans l'histoire de cette CEDEAO? On peut me dire, bon, que peut-être ils parlent guèrement comme
voisins.
Voilà, ils sont voisins. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il est venu chercher. Donc, je crois qu'il faut faire aujourd'hui, plaise à Dieu. Vraiment, il ne faut pas que la CEDEAO aille jusque-là. La voie de la diplomatie est encore là. Je suis d'accord. Si même aujourd'hui, Bazoum revenait, Bazoum aura des problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Il aura des problèmes.
Je rappelle juste que les juntes militaires du Burkina et du Mali ont clairement dit qu'une attaque contre le Niger équivaudrait à une agression contre le territoire. Ça veut dire que ces deux pays pourraient entrer en guerre. L'Algérie a un langage similaire. Le Tchad même n'est pas chaud. Et au sein même des autres pays de la CEDEAO, le son n'est pas à l'unisson.
Non. Vous savez, moi je ne m'intéresse pas à ces propos privés de maturité. Ces propos des présidents, c'est-à-dire putschistes, privés de maturité. Il n'y a aucune raison. Je voulais juste corriger les concepts. Mm-hmm. La CEDEAO n'a pas dit qu'elle ira déclarer la guerre au Niger. Non. Elle dit qu'elle ira rétablir l'ordre. L'ordre, ce n'est pas la première fois.
De quelle façon
ramener le président Bazoum au pouvoir?
Par les armes.
Non, s'il vous plaît, on a dit usage de la force. Vous savez, ce n'est pas la première fois que la CEDEAO intervient dans un pays. S'il vous plaît, quand vous parlez de.
S'il vous plaît,
liberté de parole. S'il vous plaît, écoutons Uriel. S'il vous plaît. Vas-y, Uriel, vas-y.
Vous savez, c'est la même chose.
Non, le droit à la liberté de chacun.
Non, oui, je veux, soyez galant, écoutez-moi, s'il vous plaît.
Nous t'écoutons.
Vous savez, c'est pas la première fois que la CEDEAO intervient pour rétablir l'ordre. La CEDEAO est intervenue en Sierra Leone, ils sont intervenus en Côte d'Ivoire, ils sont intervenus en Guinée. Donc, si vous, votre position. Je vous dis, moi, je ne me contente pas des propos privés de maturité. Donc, la CEDEAO n'a pas dit qu'elle ira déclarer la guerre au Niger. Elle dit quand vous parlez d'usage d'armes, des tirs ciblés, Je pense que nous sommes ici, on attribue des fois, on attribue des propos à la CEDEAO qui ne viennent pas de... Oui, c'est pour planifier cette intervention.
Non, 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 excusez-moi, il est midi.
Moi, je vois que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous informer.
Non, je vous comprends, mais il est midi et les auditeurs aussi s'impatientent pour entrer en jeu. J'ai juste rappelé que les deux numéros n'ont pas changé, c'est le 22-21-33-74 et le 91-36-63-75. Juste un moment de pause et puis nous allons nous brancher sur les auditeurs. 93.5. Merci beaucoup. Le débat s'anime avec les auditeurs qui nous écrivent que tout est parti de la faiblesse de nos institutions. C'est que les institutions de nos républiques ne marchent pas bien pour se réguler. Les présidents sont trop souvent trop forts, plus forts que les institutions. Ils sont souvent mal élus et ils ne font pas souvent la volonté des peuples, mais satisfont plutôt à d'autres exigences. Voilà les coups d'État. Mais le débat reste partagé avec le premier auditeur en ligne. Bonjour.
Bonjour, Charles.
Oui.
Gérard. Oui.
Nous écoutons Gérard.
Je salue le plateau.
Oui.
Je remercie vivement vos collègues, mais je suis déçu par les propos de Uriel.
Nous sommes dans un débat, chacun est libre d'avancer ses arguments.
Oui, ça, mais il faut que les propos que nous tenons fassent tout pour que nous soyons apaisés. Actuellement, il fait chaud au Niger. Il ne faut pas que nous tenions des propos qui vont bloquer les Nigériens et surtout les panafricains que nous sommes. Quand nous prenons l'intervention de la CEDEAO dans certains pays d'Afrique, prenons le cas du Libéria. C'était la guerre civile que les gens voulaient éviter, donc ils voulaient tout faire pour arrêter la guerre civile. Donc, oui. Et comment était parti pour effectivement cesser la guerre.
Oui.
Mais dans ce cas précis, nous voulons intervenir dans un pays où il y a eu un coup d'État et que les Français disent que c'est tentative de coup d'État. Or, c'est un coup d'État. Et que nous voulons intervenir militairement. Comment militairement? Si dans ce pays-là, les militaires sont là, le peuple est avec les militaires. Maintenant, nous voulons amener les soldats là-bas pour quoi faire? Pour déloger qui? Nous devons faire tout pour faire venir la raison. Heureusement que le Sénat nigérien a interdit à Tinubu de faire ce taxe vil qui ne sert à rien. Donc, essayons de faire tout pour que l'intégrité physique du président soit au point et que les militaires qu'on discute avec eux, qu'ils arrivent
autrement
à
dit,
faire
nous privilégions la, disons, la négociation, la diplomatie.
Voilà.
Merci beaucoup, Gérard. Le suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur Sass.
Oui.
Bonne arrivée.
Merci, papa Sibiti.
Vous savez, bonjour le plateau.
Oui.
Mais si le directeur arrive, mais vous savez, il y avait une vidéo qui a circulé comme quoi les djihadistes viennent, ils se sont réunis bâtiment pour venir défendre Bazoul. Mais si tel est le cas, pourquoi ils ne peuvent pas couvrir les arrêtés en même temps?
Non, papa Sibiti, pour les vidéos, il y a tellement d'éléments qui circulent sur les réseaux, il faut faire beaucoup attention.
Je remercie celui qui a parlé là.
Oui.
Celui qui, si vous ne voulez pas, les gens ne veulent pas du coup d'État, il faut bien gérer pour améliorer les conditions vitales.
Ça, c'est à l'adresse de nos chefs d'État. Il faut qu'ils soient à l'écoute des populations et travaillent à résoudre les problèmes de leur population.
Voilà. Quand vous prenez les militaires, ce n'est pas tous qui sont analphabètes. Il y a des professeurs, des agrégés parmi eux. Oui, mais c'est ça. Ça là, démocratiquement, et même pas ce terme. C'est pas qu'on est démocratiquement élu qu'il faut faire ce qu'on veut. Non, il y a des gens, il y a des gars de fou. Et ces militaires, n'importe où, sont là pour dire, ne fais pas.
Merci papa Sibiti. Mais comme le débat est riche et que beaucoup attendent de souffrir, que s'il vous plaît, recevons l'auditeur qui est en ligne. Bonjour.
Oui, monsieur Sass. Bonjour.
Oui.
Je salue vous-même et vos invités.
Merci, c'est monsieur.
C'est Mathieu Davenou.
Mathieu Davenou, nous écoutons.
Oui, j'ai bien constaté une intervention concernant le Niger.
Ok, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
au niveau du marché de Dossiné, la voie pavée qui mène jusqu'au niveau de, du château d'eau,
oui.
Si vous faites le constat, vous verrez que dans des voies, il y a des trous très, très dangereux.
Mm-hmm.
C'est carrément des fosses. Mais au niveau de la route, il y a des parties qui n'ont pas été couvertes. Et monsieur a failli là-bas, j'étais de passage, c'est très dangereux. Je crois que c'est le maire de quel golf qui le prenne soin. Maintenant, pour le cas du Niger,
oui.
On comprend que le Nigeria veut recevoir le violon de son Sénat avant d'intervenir. Mais je ne vois pas ce qui empêche M. Ouattara, il n'a qu'à dans ses habitudes, mais il n'a qu'à encore envoyer son armée. Il attend quoi, M. Ouattara? Mais quand les gens se plaignent des coups d'État, M. Ouattara, par exemple, on sait comment il est de nos pouvoirs. C'est des choses comme ça qui font que la Sudao ne marche pas. C'est dangereux. Qu'on me dise que non, les coups d'État ne doivent pas être perpétrés dans notre pays. La démocratie, quelle démocratie? Moi, je pense qu'actuellement, l'Afrique mérite d'être dirigée encore par des militaires. Ils sont encore mieux disciplinés que nos civils. En avant les coups d'État.
Merci beaucoup. Je rappelle juste que si Ouattara veut intervenir au Niger, il faudra d'abord qu'il passe par le Mali et le Burkina Faso, alors que ces pays lui ont déjà dit niet. Bon, pour ce qui est des trous sur la voie que notre ami a mentionné et bien dans d'autres artères, c'est pour ça que nous avons élu les maires. Réglez, s'il vous plaît, ces petits problèmes-là sur nos voies. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, Charles, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Je salue tous les plateaux. Hein.
Nous saluons en retour.
Bon, c'est pour vous dire que le coup d'État est déjà consommé. Le coup d'État du Niger est déjà consommé. Hein? Quand le peuple se met debout, l'impérialisme disparaît, comme l'a dit Thomas Sankara. Vous voyez, il y a deux sortes de coups d'État. Il y a un coup d'État négatif et il y a un coup d'État positif. C'est vrai que personne n'est contre pour plutôt. Le coup d'État de Badou. Mais comment est-ce que le chef d'État il peut quand même aller du côté des Occidentaux? Voilà, aujourd'hui, l'Afrique a été partagée en 1885 par les colonies, par les colons. Vous voyez, non? Moi, c'est pour dire, en tant qu'un homme de Dieu, bien fait utiliser un petit pour nous marquer au grand. L'Afrique, elle n'a qu'à rester et la force elle-même n'a qu'à venir. Et puis, tout que les nous ne pas la face de Dieu, va les marquer. Et ils seront. Je ne sais pas ce que Dieu vous a donné le temps à d'autres présidents de la sous-région, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, pour que les gens sachent que c'est la population. Mais dites-moi ça. Pourquoi c'était une partie des Nigériens, l'armée qui ont fait ce coup d'État, fait le coup d'État? Directement, toute l'armée est de eux. Et toute la population est de eux. Il faut que Bazoum sache que le peuple ne veut plus de lui. Changez de mentalité, pour aider eux.
Merci. Mais je rappelle que nous avons voté des constitutions qui établissent que nous devons accéder au pouvoir démocratiquement par des élections transparentes. Ça aussi, il faut le rappeler. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, salam alaikum, monsieur.
Monsieur Waris.
Je salue tous les plateaux.
Ah, vous êtes grippé?
Par rapport à la situation du Niger, monsieur Sass.
Oui.
Moi, je condamne le coup d'État militaire.
Mm-hmm.
Et renverser un président démocratiquement élu, nous le condamnons. Maintenant, et ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est la diplomatie du Macron qui a échoué. Qui a échoué. Vous voyez, Chirac n'a pas... on n'a pas compris, juste après le coup d'État, la France convoque son conseil militaire pour faire quoi? Et vous allez voir que la CEDEAO ne fait que suivre la France. Et jusqu'à présent, on nous dit encore que tentative de coup d'État. Bon, on ne peut pas comprendre. Donc moi, je vais demander avec humiliation au président de la République, son Excellence Faure-et-Sol Nyasimbe, de ne pas envoyer nos soldats là-bas. Si jamais il y a demande. Puisque aujourd'hui, il faut aller par diplomatie.
Merci beaucoup.
Et non pas ce que nous voyons dire aller intervenir militairement. Et ces Nigériens, nous ne l'ont pas fait. Vous avez ce qu'ils ont rempli le stade hier, vous avez vu ce qui s'est passé.
Merci beaucoup, merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui. Et si?
Oui. C'est arrivé. Voilà. Décidérez un peu, vous tous là-bas.
Oui, allez-y, et si?
Voilà. Ah bon, il faut aller vite. Voilà. Vous parlez de. En Afrique, là. Vous parlez de jeunes militaires. Autistes, récidivistes, militaro-constitutionnels. Coup d'État, tout ça, là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est beau? Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez que ça. Est-ce que les Blancs, là, ça existe chez les Blancs, ça existe chez Poutine, hein, les Turcs et tous les autres, là. Mais pas chez, en Occident. Ces mots-là sont proscrits en Occident, sous peine de purger la perpète, quoi. Mais arrêtez ça. Et puis, on a passé en fait profit tous les problèmes qu'on a ici. Depuis 63, là, que le Togo, 63, 90, 2005, tout ça, là, que le Togo se bat pour la liberté et la démocratie. Est-ce qu'il y en a un de ces pays-là qui vous ont une fois défendu? Non. Mais arrêtez. Mais ils sont habitués à faire des coups d'État dans ces pays-là, non? Tous les ans, ou tous les deux ans, c'est des coups d'État là-bas. Mais, laissez ça et parler de nous, là. De nous au Togo. Personne ne s'est jamais intéressé du Togo qui se bat. Au contraire, ils se lient contre nous. Ils font des complots contre nous. Il n'y a qu'à voir 2005-2018, tout le reste. Il faut arrêter pour parler de nous. Si la CDAO, là, tous ceux qui composent ça, là, pourront se faire raturer pour nous foutre la paix, ça serait bien.
Merci beaucoup, Essi. Nous avons encore le temps de recevoir un auditeur, voire deux. Bonjour.
Bonjour, Safgao. Bon retour. C'est Richard depuis le Danemark.
Oui, Richard.
Ouais, bonjour le plateau.
Oui, bonjour à vous.
J'aimerais féliciter Uriel pour son développement. Félicitations à toi. Mm-hmm. Les gens qui se croient panafricains et ils pensent que la démocratie, c'est devenu faire le coup d'État, je suis désolé pour vous. Il faudrait qu'on mette fin à cela. Nous ne sommes plus des années 80. Aider l'Afrique à ce que l'Afrique aille de l'avant. On ne peut pas mettre un pied devant, 10 pieds derrière. S'il vous plaît. Arrêtez cette histoire de coup d'État. Il faudrait qu'on puisse, ces bandits, il faudrait qu'on puisse les arrêter. Actuellement, peut-être ailleurs, dans d'autres pays,
on va les arrêter comment, concrètement?
Mais il faut les bannir, il faut aller intervenir. Ils sont venus par les mains, il faut les enlever par la force aussi. Pourquoi d'autres pays, ça les servent de leçon? Actuellement, il y a d'autres militaires qui sont en train de se nourrir des idées.
Mais Richard, s'il vous plaît, apparemment, l'armée nigérienne est toute unie. Le peuple nigérien, le peuple civil, manifeste plutôt aux côtés des putschistes à Niamey.
Non, il y a des manières pour le faire. La Russie aussi a quitté une fois et a commencé par attaquer l'Ukraine. Il faudrait qu'on finisse pour ça. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Eh bien, le débat, il est ce qu'il est. Ici, déjà au studio, nous n'avons pas l'unanimité, encore moins au sein des auditeurs. C'est dire que c'est une question vraiment qui divise. Une minute à chacun, parce que les deux à Bové.
Nous prions nos autorités, nos présidents, nos chefs d'État d'opter pour le dialogue afin d'aider le Niger à retrouver la paix. Parce que les citoyens nigériens sont déjà en difficulté. Si on ne sait pas faire cette situation, on risque d'aggraver la situation de nos pays. Parce que nous avons nos compatriotes là-bas. Si la situation s'aggrave là-bas, ils seront obligés de revenir dans nos pays. Et la situation va se dégrader davantage chez nous. Donc, c'est un peuple frère. Nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix dans ce pays.
Je rappelle déjà qu'on annonce que des pays comme le Nigeria et le Bénin ont fermé leurs frontières terrestres. Il n'y a plus de commerce. Le Nigeria aurait même coupé l'électricité la Côte d'Ivoire a pris les dispositions pour qu'aucun produit ne transite par la Côte d'Ivoire en direction et en provenance du Niger. Or, il est déjà dit que le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Si les sanctions économiques les asphyxient davantage et que éventuellement les militaires intervenaient, qu'est-ce qu'il adviendrait?
Non, rapidement, parce que j'ai écouté beaucoup d'intervenants, je voudrais juste dire que personne ne fait l'apologie des coups d'État. Ça, personne n'a dit qu'il fait l'apologie des coups d'État. Mais personne n'encourage non plus les guerres en Afrique. Parce que j'ai dit ici que la guerre, on sait quand elle peut commencer, mais la fin, personne ne sait. Aujourd'hui, les gens, sous prétexte de Bazoum, Bazoum, c'est un individu, c'est Bazoum.
Mais Arim, il n'y a pas que Bazoum, il y a l'institution présidente de la République qui vient d'être renversée.
Oui, et ce que je suis en train de dire, j'ai démontré ici que même si on remet Bazoum aujourd'hui, je ne crois pas qu'il puisse gouverner. C'est pour cela que, en évitant les guerres, parce qu'on a fait coup d'État que nous condamnons, mais il ne faut pas qu'on en rajoute. C'est pour ça que j'ai dit que les chefs d'État peuvent prendre la mesure de continuer sur la voie du dialogue pour éviter le chaos en Afrique. Parce que quand ça va commencer, les gens ont dit que si la CEDEAO vient là-bas, ce serait une journée. Ça peut faire des années comme nous sommes en train de vivre avec l'Ukraine. Voilà, j'ai honte quand vous lisez tout à l'heure que le Nigeria a bloqué les frontières, que le Bénin a fait la même chose, que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Ça fait ridicule pour nous, Africains que nous sommes. Parce que quand vous prenez le Bénin et le Togo partagent les mêmes ethnies, les mêmes identités culturelles et tout. Au Niger, comme au Nigeria, c'est la même chose. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la même chose. Ça fait triste que les Africains acceptent de s'affronter.
Merci, merci beaucoup. Mais pour terminer, Arim Yao, c'est juste une minute, le temps que les autres aussi puissent avancer. Uriel.
Alors, moi, je voulais juste rappeler des choses. Vous savez, nous avons écrit qu'on ne souhaite même pas cette lutte valable là-bas. C'est dire que nous privilégions la diplomatie, ça c'est un. De deux, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, je pense que, bon, vous savez, le Bénin, moi je connais le Niger, hein, je connais le Niger. Quand je suis à 10 heures de temps du Niger, mon village est à 10 heures de temps. Nous, on fait pas la route, vous quittez chez nous, vous allez à Djougou, vous allez à Kolkonde, vous montez à Wassabianko, vous allez à Mananville. Mais bien sûr, et vous traversez le Niger par la rivière de Mananville. Nous étions là-bas quand la rivière a cédé en 2003. On a attendu les situations pour qu'on nous traverse par la pirogue. Aujourd'hui, s'il y a guerre là-bas, le Togo va suivre. Parce que les compatriotes togolais qui sont au Niger, mes amis, c'est énorme. Donc, nous ne souhaitons pas cela. Mais il faudrait quand même que les gens arrivent à comprendre le bien fondé de la stabilité. Personne ne peut encourager un coup d'État pour obtenir les résultats que les jeunes nous offre pour dire il n'a pas pu faire ceci, il n'a pas pu faire cela. Ce n'est pas la junte qui viendra rétablir.
Merci. Un auditeur se demande si la nouvelle forme du panafricanisme que nous découvrons, si c'est les coups d'État. Jacques Jacouti.
Non, je crois que ce qui est intéressant à féliciter, c'est que il faut féliciter celui qui nous a créé WhatsApp. Il faut le féliciter parce qu'aujourd'hui, rien n'est plus caché dans le monde. Vous voyez ce qu'on ne connaissait pas, ce qui se tramait de gauche à droite. Aujourd'hui, à la seconde, à la minute près, on sait ce qui se passe. Et l'autre aspect, vous savez, vous voyez ce qui s'est passé au Venezuela. Entre-temps, quand les Américains, les Français soutenaient l'opposant là, au détriment de l'autre, mais finalement, vous avez vu qu'ils ont désenchanté, finalement. Donc, je crois qu'il faudrait, c'est vrai, Uriel, ce que vous dites, personne n'est d'accord pour les coups d'État.
Bien sûr.
Vous comprenez? Personne, aucun Africain n'est d'accord pour les coups d'État. Ça se dirait loin, peut-être qu'on va m'attaquer. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on essaie même de reviser la démocratie. Parce que cette démocratie-là nous crée plus de problèmes. Il faut que les Africains que nous sommes, nous puissions reviser cette démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que même les démocrates, les vrais démocrates que nous portons au pouvoir, finalement, c'est les mêmes qui nous créent également des problèmes. Aujourd'hui, les gens sont là pour jouir du pouvoir. Ils ne sont pas là pour gérer. Mais les gens juste du pouvoir. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on puisse trouver un modèle en Afrique qui puisse correspondre à tout le monde.
Merci.
Et qu'on puisse gérer.
Juste rappeler qu'il y a 13 ans, Mohamed Bazoum avait applaudi un coup d'État qui avait renversé le président Mamadou Tandja. Alors, très rapidement, un tour pour recueillir vos cartons de fin d'émission. Harry Miaou, carton vert, jaune et rouge.
J'ai pas de carton, mais un petit mot.
Oui, à l'endroit de qui?
Je prie pour la paix en Afrique et surtout au Niger. Et j'invite les chefs d'État de la communauté économique ouest africaine à prendre la hauteur et à privilégier
Merci.
Les voies
C'est
du
noté,
dialogue.
Uriel.
Alors moi, j'attribue un carton vert à mon neveu. Mon neveu, ça c'est le Benjamin, ma soeur aînée, qui a eu son BPC avec une moyenne de 20,11.
Ah.
Et oui, franchement, il a écouté les conseils comme ses frères. Et je lui attribue ce carton vert et je le motive à travailler davantage.
Et je note que le neveu est plus intelligent que son oncle.
Carton
vert pour la diplomatie togolaise dans la situation du Niger.
Merci. Et Jacques Diakouti?
Non, invitez les Togolais parce qu'il y a trop de décès actuellement. Les gens sont trop pensifs. C'est-à-dire que vous voyez les gens à 30 ans, 40 ans, les gens meurent comme des mouches. S'il vous plaît, chers compatriotes, écoutez, revenez sur terre. Ce que vous n'allez, vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, il y a également le temps à le faire. Ne soyez pas stressé et vous mourrez à 20 ans, 25 ans comme ça. C'est
merci,
trop. Chaque
merci.
Samedi, on ne fait qu'enterrer.
Il faudrait que les gens reviennent. Nous sommes malades, nous pouvons être. Nous pourrions avoir besoin de sang pour ceci ou cela. L'occasion pour nous de décerner un carton vert à Move Africa Togo. En tout cas, c'est le journal Togo Mega Info qui le dit. Le directeur général de Move Africa Togo qui a mobilisé son personnel et de bonne volonté pour donner du sang pour sauver des vies. Il y a quelques jours, c'était à l'OTR où les gens se sont organisés pour donner du sang. Alors, ce carton vert va à l'endroit de toutes les bonnes volontés qui consentent à donner un peu de leur sang pour sauver la vie de leurs compatriotes. Ce carton va également au Centre national de transfusion sanguine qui est à tout coin d'Oumacessé, qui attend ses bonnes volontés pour recueillir un peu de sang et pour sauver les autres. C'est fini pour aujourd'hui. Le Club La Presse vous souhaite bon appétit si vous passez à table. Et rendez-vous demain, mardi, ce sera le 8 août 2023, si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.